Songe d'une nuit d'été. De William Shakespeare. Les personnages: Thésée, duc d'Athènes, Égée, père d'Hermia, Lysandre et Démétrius, amoureux d'Hermia, Philostrate, ordonnateur des fêtes de Thésée, Quince, charpentier, Bottom, tisserand, Flûte, marchand de soufflet, Snout, chaudronnier, Starveling, tailleur, Hippolyte, reine des Amazones, fiancée à Thésée, Hermia, fille d'Égée, amoureuse de Lysandre, Hélène, amoureuse de Démétrius, Oberon, roi des fées, Titania, reine des fées, Pâques ou Robin bon diable, Lutin, Fleur de pois, Toile d'araignée, Papillon, Grain de moutarde, Fée, Pyram, Thisbé, La muraille, Le clair de lune, Le lion sont des personnages de l'intermède. Fée de la suite du roi et de la reine, suite de Thésée et d'Hippolyte. La scène est dans Athènes et dans un bois voisin. Acte 1er. Scène 1. La scène représente un appartement du palais de Thésée dans Athènes. Thésée, Hippolyte, Philostrate, suite. Thésée. Belle Hippolyte, l'heure de notre hymen s'avance à grands pas. 4 jours fortunés amèneront une lune nouvelle. Mais que l'ancienne me semble lente à décroître. Elle retarde l'objet de mes désirs, comme une marâtre ou une douairière qui puise longtemps dans les revenus du jeune héritier. Hippolyte. 4 jours seront bientôt engloutis dans la nuit, et 4 nuits auront bientôt fait couler le temps comme un songe. Et alors, la lune, comme un arc d'argent nouvellement tendu dans les cieux, éclairera la nuit de nos noces. Thésée. Allez, Philostrate, excitez la jeunesse athénienne à se divertir. Réveillez les esprits vifs et légers de la joie. Renvoyez aux funérailles la mélancolie. Cette pâle compagne n'est pas faite pour notre fête. Philostrate sort. Hippolyte, je t'ai fait la cour, l'épée à la main. J'ai conquis ton cœur par les rigueurs de la guerre. Mais je veux t'épouser sous d'autres auspices, au milieu de la pompe, des triomphes et des fêtes. Entre Égée, Hermia, Lysandre et Démétrius. Égée. Soyez heureux, Thésée, notre illustre duc. Thésée. Je vous rends grâce, bonne Égée. Quelle nouvelle annoncez-vous? Égée. Je viens, le cœur plein d'angoisse, me plaindre de mon enfant, de ma fille Hermia. Avancez, Démétrius. Mon noble prince, ce jeune homme a mon consentement pour l'épouser. Avancez, Lysandre. Et celui-ci, mon gracieux duc, a ensorcelé le cœur de mon enfant. C'est toi, Lysandre, qui lui a donné des vers et qui a échangé avec ma fille des gages d'amour. Tu as, à la clarté de la lune, chanté sous sa fenêtre, avec une voix trompeuse, des vers d'un amour trompeur. Tu as surpris son imagination avec des bracelets de tes cheveux, avec des bagues, des bijoux, des hochets, des colifichets, des bouquets, des friandises, messager d'un ascendant puissant sur la tendre jeunesse. Tu as dérobé avec adresse le cœur de ma fille et changé l'obéissance qu'elle doit à son père en un âpre entêtement. Ainsi, gracieux duc, dans le cas où elle oserait refuser ici, devant votre Altesse, de consentir à épouser Démétrius, je réclame l'ancien privilège d'Athènes. Comme elle est à moi, je puis disposer d'elle. Et ce sera pour la livrer à ce jeune homme ou à la mort, en vertu de notre loi, qui a prévu expressément ce cas. Thésée. Que répondez-vous, Hermia ? Charmante fille, pensez-y bien. Votre père devrait être un dieu pour vous. C'est lui qui a formé vos attraits. Vous n'êtes à son égard qu'une image de cire qui a reçu de lui son empreinte. Et il est en sa puissance de laisser subsister la figure ou de la briser. Démétrius est un digne jeune homme. Hermia. Lysandre aussi. Thésée. Il est par lui-même plein de mérite. Mais dans cette occasion, faute d'avoir l'agrément de votre père, c'est l'autre qui doit avoir la préférence. Hermia. Je voudrais que mon père puisse seulement voir avec mes yeux. Thésée. C'est plutôt à vos yeux de voir avec le jugement de votre père. Hermia. Je supplie votre Altesse de me pardonner. Je ne sais pas par quelle force secrète je suis enhardie, ni à quel point ma pudeur peut être compromise en ici mes sentiments en votre présence. Mais je conjure votre Altesse de me faire connaître ce qui peut m'arriver de plus funeste dans le cas où je refuserais d'épouser Démétrius. Thésée. C'est ou de subir la mort, ou de renoncer pour jamais à la société des hommes. Ainsi, belle Hermia, interrogez vos inclinations, considérez votre jeunesse, consultez votre cœur. Voyez si, n'adoptant pas le choix de votre père, vous pourrez supporter le costume d'une religieuse, être à jamais enfermée dans l'ombre d'un cloître pour y vivre en sœur stérile toute votre vie, chantant des hymnes languissants à la froide et stérile lune. Trois fois heureuse, celles qui peuvent maîtriser assez leur sang pour supporter ce pèlerinage des vierges. Mais plus heureuse est sur la terre la rose distillée que celle qui, se flétrissant sur son épine virginale, croit, vit et meurt dans un bonheur solitaire. Hermia. Je veux croître, vivre et mourir comme elle, mon prince, plutôt que de céder ma virginité à l'empire d'un homme dont il me répugne de porter le joug, et dont mon cœur ne consent point à reconnaître la souveraineté. Thésée. Prenez du temps pour réfléchir, et à la prochaine nouvelle lune, jour qui scellera le nœud d'une éternelle union entre ma bien-aimée et moi, ce jour-là même, préparez-vous à mourir pour votre désobéissance à la volonté de votre père, ou bien à épouser Démétrius, comme il le désire, ou enfin à prononcer sur l'autel de Diane le vœu qui consacre à une vie austère et à la virginité. Démétrius. Fléchissez, chère Hermia, et vous, Lysandre, cédez votre titre imaginaire à mes droits certains. Lysandre. Vous avez l'amour de son père, Démétrius. Épousez-le. Mais laissez-moi l'amour d'Hermia. Égée. Dédaigneux, Lysandre. C'est vrai, il a mon amour. Et mon amour lui fera don de tout ce qui m'appartient. Elle est mon bien, et je transmets tous mes droits à Démétrius. Lysandre. Mon prince, je suis aussi bien née que lui, aussi riche que lui, et mon amour est plus grand que le sien. Mes avantages peuvent être égalés sur tous les points à ceux de Démétrius, s'ils n'ont pas même la supériorité. Et ce qui est au-dessus de toutes ces vanteries, je suis aimée de la belle Hermia. Pourquoi donc ne poursuivrai-je pas mes droits ? Démétrius, je lui soutiendrai en face, a fait l'amour à la fille de Nédar, à Hélène, et il a séduit son cœur. Elle, pauvre femme, adore passionnément, adore jusqu'à l'idolâtrie, cet homme inconstant et coupable. Thésée. Je dois convenir que ce bruit est venu jusqu'à moi et que j'avais l'intention d'en parler à Démétrius. Mais, surchargée de mes affaires personnelles, cette idée s'était échappée de mon esprit. Mais venez, Démétrius, et vous aussi, Égée, vous allez me suivre. J'ai quelques instructions particulières à vous donner. Quant à vous, belle Hermia, voyez à faire un effort sur vous-même pour soumettre vos penchants à la volonté de votre père. Autrement, la loi d'Athènes, que nous ne pouvons adoucir par aucun moyen, vous oblige à choisir entre la mort et la consécration à une vie solitaire. Venez, mon Hippolyte. Comment vous trouvez-vous, ma bien-aimée ? Démétrius, et vous, Égée, suivez-nous. J'ai besoin de vous pour quelques affaires relatives à notre mariage. Et je veux conférer avec vous sur un sujet qui vous intéresse vous-même personnellement. Égée. Nous vous suivons, prince, avec respect et plaisir. Thésée et Hippolyte sortent avec leur suite. Démétrius et Égée les accompagnent. Lysandre. Qu'avez-vous donc, ma chère ? Pourquoi cette pâleur sur vos joues ? Quelle cause a donc si vite flétri les roses ? Hermia. Apparemment, le défaut de rosée. Qu'il me serait aisé de leur prodiguer de mes yeux gonflés de larmes. Lysandre. Hélas, j'en juge par tout ce que j'ai lu dans l'histoire, par tout ce que j'ai entendu raconter. Jamais le cours d'un amour sincère ne fut paisible. Mais tantôt les obstacles viennent de la différence des conditions. Hermia. Oh, quel malheur quand on est enchaîné à quelqu'un de plus bas que soi. Lysandre. Tantôt, les cœurs sont mal assortis à cause de la différence des années. Hermia. Oh, douleur, quand la vieillesse est unie à la jeunesse. Lysandre. Tantôt, c'est le choix de nos amis qui contrarie l'amour. Hermia. Oh, c'est un enfer de choisir l'objet de son amour par les yeux d'autrui. Lysandre. Ou s'il se trouvait de la sympathie dans le choix, la guerre, la mort ou la maladie sont venus l'assaillir et le rendre momentané comme un son, rapide comme une ombre, court comme un songe, passager comme l'éclair qui, au milieu d'une nuit sombre, découvre dans un clin d'œil le ciel et la terre. Et avant que l'homme ait eu le temps de dire « Voyez !», le gouffre des ténèbres l'a englouti. C'est ainsi que tout ce qui brille est prompt à disparaître. Hermia. Si les vrais amants ont toujours été traversés, c'est un arrêt du destin. Apprenons donc à le subir avec patience, puisque c'est un revers commun, et aussi inséparable de l'amour, que les pensées, les songes, les désirs et les larmes, accompagnement indispensable de nos pauvres penchants. Lysandre. Sage conseil. Écoutez-moi donc, Hermia. J'ai une tante qui est veuve, douairière, possédant une immense fortune, et qui n'a point d'enfant. Sa maison est éloignée d'Athènes de 7 lieues. Elle me regarde comme son fils unique. Là, chère Hermia, je peux t'épouser. Et la dure loi d'Athènes ne peut nous y poursuivre. Ainsi, si tu m'aimes, dérobe-toi de la maison de ton père demain dans la nuit. Et dans le bois, à 1 lieue hors de la ville, au même endroit où je te rencontrai une fois avec Hélène, allant rendre votre culte à l'aurore de mai, là, je te promets de t'attendre. Hermia, mon cher Lysandre, je te jure par l'arc le plus fort de l'amour, par la plus sûre de ses flèches dorées, par la douce candeur des colombes de Vénus, par les nœuds secrets qui enchaînent les âmes et font prospérer les amours, par les feux dont brûla la reine de Carthage lorsqu'elle vit le perfide Troyen mettre à la voile, par tous les serments que les hommes ont violés, plus nombreux que n'ont jamais été ceux des femmes, au lieu même que tu viens de m'assigner, demain, sans faute, j'irai te rejoindre. Lysandre. Tiens ta promesse, ma bien-aimée. Regarde, voici Hélène qui vient. Hélène entre. Hermia. Tu vous accompagnes, belle Hélène. Où allez-vous ainsi ? Hélène. Vous m'appelez belle ? Ah, rétractez ce mot de belle. Démétrius aime votre beauté. Oh, heureuse beauté. Vos yeux sont des étoiles polaires. Et la douce mélodie de votre voix est plus harmonieuse que le chant de l'alouette à l'oreille du berger, lorsque les blés sont verts et que l'aubépine commence à montrer les boutons de ses fleurs. La maladie contagieuse. Oh, que n'en est-il ainsi des charmes ? Je m'emparerai des vôtres, belle Hermia, avant de vous quitter. Mon oreille saisirait votre voix, mes yeux, votre regard, et ma langue ravirait le doux accent de la vôtre. Si l'univers était à moi, je le donnerais tout entier, excepté Démétrius, pour changer de formes avec vous. Oh, enseignez-moi la magie de vos yeux, Et par quel art vous gouvernez les mouvements du cœur de Démétrius ? Hermien. Je le regarde d'un air fâché. Et cependant, il m'aime toujours. Hélène. Oh, si vos regards courroucés pouvaient apprendre leur secret à mes souris. Hermien. Je le maudis. Et cependant, il me rend en retour son amour. Hélène. Oh, si mes prières pouvaient éveiller en lui une pareille tendresse. Hermien. Plus je le hais, plus il s'obstine à me suivre. Hélène. Plus je l'aime, plus il me hait. Hermien. Sa folle passion, chère Hélène, n'est point ma faute. Hélène. Non, ce n'est que la faute de votre beauté. Ah, plût au ciel que cette faute fût la mienne. Hermien. Consolez-vous, il ne verra plus mon visage. Lysandre et moi, nous voulons fuir cette ville. Avant le jour où je vis Lysandre, Athènes me semblait un paradis. Oh, quel charme émane donc de mon amant pour avoir ainsi changé un ciel en enfer. Lysandre. Hélène, nous allons vous ouvrir nos âmes. Demain dans la nuit, quand Phébé contemplera son front d'argent dans l'humide cristal et parera de perles liquides le gazon touffu, heure qui cache toujours la fuite des amants, nous avons résolu de franchir furtivement les portes d'Athènes. Hermien. Et dans les bois, où souvent vous et moi nous avions coutume de reposer sur un lit de molle prime vert, et penchant dans le sein l'une de l'autre les doux secrets de nos cœurs, c'est là que nous devons nous trouver, mon Lysandre et moi, afin de partir, en détournant pour jamais nos yeux d'Athènes, pour chercher de nouveaux amis et une société étrangère. Adieu, chère compagne de mes jeux, prie pour nous, et que le sort favorable t'accorde enfin ton Démétrius. Lysandre, tiens ta parole. Il faut priver nos yeux de l'aliment des amants jusqu'à demain dans la nuit profonde. Hermia sort. Lysandre. Oui, mon Hermia. Hélène, adieu. Puisse Démétrius vous adorer autant que vous l'adorez. Lysandre sort. Hélène. Combien certains mortels sont plus heureux que d'autres. Je passe dans Athènes pour être aussi belle qu'elle. Mais que m'importe? Démétrius n'en pense pas de même. Il ne saura jamais ce que tout le monde sait, excepté lui. Comme il se trompe en adorant les yeux d'Hermia, je me trompe moi-même en admirant son mérite. L'amour peut transformer les objets les plus vils, le néant même, et leur donner de la grâce et du prix. L'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. Et voilà pourquoi l'ailé Cupidon est peint aveugle. L'âme de l'amour n'a aucune idée de jugement. Des ailes et point d'yeux. Voilà l'emblème d'une précipitation inconsidérée. Et c'est parce qu'il est si souvent trompé dans son choix qu'on dit que l'amour est un enfant. Comme les folâtres enfants se parjurent dans leur jeu, l'enfant amour se parjure en tout lieu. Avant que Démétrius eût vu les yeux d'Hermia, il pleuvait de sa bouche une grêle de serments pour attester qu'il n'était qu'à moi seul. Mais à peine cette grêle a-t-elle reçu la chaleur d'Hermia que ses serments se sont dissous et fondus en pluie. Je vais aller lui annoncer la fuite de la belle. Il ira demain dans la nuit la poursuivre au bois. Et si j'obtiens quelques remerciements pour cet avis, il lui en coûtera beaucoup. Mais je veux au moins consoler ma peine par sa vue en ce lieu, et m'en retourner ensuite. Elle sort. Scène 2. Une chambre dans une chaumière. Quince, Snag, Button, Flute, Snout et Starveling. Quince. Toute notre troupe est-elle ici? Button. Vous feriez mieux de les appeler tous, l'un après l'autre, suivant la liste. Quince. Voici le rouleau où sont écrits les noms de tous les acteurs d'Athènes, qui ont été jugés dignes de jouer dans notre intermède devant le duc et la duchesse, le soir de leurs noces. Button. Avant tout, bon Pierre Quince, dites-nous le sujet de la pièce. Ensuite, lisez les noms des acteurs, et arrivons ainsi au point principal. Quince. Eh bien, notre pièce, c'est la très lamentable comédie et la tragique mort de Pyram et Thisbé. Button. Bonne pièce, vraiment, je vous assure. Et bien gai. Allons, cher Pierre Quince. Appelez vos acteurs suivant la liste. Messieurs, rangez-vous. Quince. Que chacun réponde à son nom. Nick Patton, Tisserand. Patton. Présent. Nommez le rôle qui m'est destiné et poursuivez. Quince. Vous, Nick Patton, vous êtes inscrit pour le rôle de Pyram. Patton. Qu'est-ce qu'il est, ce Pyram? Un amant ou un tyran? Quince. Un amant qui se tue par amour le plus bravement du monde. Patton. Ce rôle demandera quelques larmes dans l'exécution. Si c'est moi qui le fais, que l'auditoire tienne bien ses yeux. Je ferai rage et je saurai gémir comme il faut. Aux autres. Cependant, mon goût principal est pour les rôles de tyran. Je pourrais jouer Hercule à ravir et le rôle de déchire-chat à tout rompre. Les rocs en furie, avec un choc frémissant, briseront les verrous des portes des cachots et le char de Phébus brillera de loin et fera et défera les destins insensés. Cela était sublime. Allez, nommez les autres acteurs. Ceci est le ton d'Hercule, le ton d'un tyran. L'accent d'un amant est plus plaintif. Quince. François Flûte, raccommodeur de soufflet. Flûte. Ici, Pierre Quince. Quince. Il faut que vous vous chargiez du rôle de Tisbé. Flûte. Qu'est-ce que c'est que Tisbé? Un chevalier errant? Quince. C'est la beauté que Pyram doit aimer. Flûte. Ah non, vraiment? Ne me faites pas jouer le rôle d'une femme. J'ai de la barbe qui me vient. Quince. Cela est égal. Vous jouerez sous le masque. Et vous pourrez faire la petite voix tant que vous voudrez. Patton. Si je peux cacher mon visage sous le masque, laissez-moi jouer aussi le rôle de Tisbé. Vous verrez que je saurai extraordinairement bien faire la petite voix. Tisbé, Tisbé, ah, Pyram, mon cher enfant, ta chère Tisbé, ta chère bien-aimée. Quince. Non, non, il faut que vous fassiez Pyram, et vous, flûte, Tisbé. Patton. Allons, continuez. Quince. Robin Starveling, le tailleur. Starveling. Ici, Pierre Quince. Quince. Robin Starveling, vous jouerez le rôle de la mère de Tisbé. Thomas Snout, le chaudronnier. Snout. Me voici, Pierre Quince. Quince. Vous, le rôle du père de Pyram. Et moi, celui du père de Tisbé. Snag, le menuisier. Vous ferez le lion. Et voilà. J'espère une pièce bien distribuée. Snag. Avez-vous là le rôle du lion par écrit? Si vous l'avez, donnez-le-moi, je vous prie, car j'ai la mémoire lente. Quince. Oh, vous pourrez le faire impromptu, car il ne s'agit que de rugir. Bottom. Oh, laissez-moi jouer le lion aussi. Je rugirai si bien que ce sera plaisir de m'entendre. Je rugirai si bien que je ferai dire au duc qu'il rugisse encore, qu'il rugisse encore. Quince. Si vous alliez faire votre rôle d'une manière trop terrible, vous épouvanteriez la duchesse et les dames, au point de les faire crier de frayeur, et c'en serait assez pour nous faire tous pendre. Tous ensemble, cela ferait pendre tous les fils de nos mères. Patton. Je vous accorde, mes amis, que si vous épouvantiez les dames, au point de leur faire perdre l'esprit, elles ne se feraient pas un scrupule de nous pendre. Mais je vous promets de grossir ma voix, de façon à rugir avec le doux murmure d'une jeune colombe. Oui, je rugirai de façon à ce que vous croyez entendre un rossignol. Quince, vous ne pouvez absolument faire d'autre rôle que Pyram, car Pyram est un homme d'une aimable figure, un homme bien fait, comme on en peut voir dans un jour d'été, un très aimable et charmant cavalier. Ainsi, vous voyez bien qu'il est nécessaire que vous fassiez Pyram. Patton. Allons, je m'en chargerai. Quelle est la barbe qui s'ira le mieux pour le jouer? Quince. Est-ce celle que vous voudrez? Patton. Je l'exécuterai avec votre barbe paille, ou avec la barbe orange, avec la rouge, ou avec votre barbe couleur de tête française, celle d'un jaune parfait. Quince. Il y a pas mal de vos têtes françaises qui n'ont pas un cheveu. Vous feriez donc votre rôle sans barbe. Mais allons, monsieur, voilà vos rôles. Et je dois vous prier, vous recommander, vous supplier de les bien apprendre. Demain soir, venez me trouver dans le bois voisin du palais, à 1 mile de la ville au clair de la lune. Là, nous ferons notre répétition. Car si nous nous assemblons dans la ville, nous aurons à nos trousses une foule de curieux, et tout notre plan sera connu. En attendant, je vais dresser la liste des préparatifs dont notre pièce a besoin. Je vous prie, n'allez pas manquer au rendez-vous. Bâton. Nous nous y rendrons. Et là, nous pourrons faire répétition avec plus de liberté et de hardiesse. Donnez-vous de la peine. Soyez parfait. Adieu. Quince. Au chêne du duc, c'est là notre rendez-vous. Bâton. C'est assez. Nous y serons. Soit que les cordes de l'arc tiennent ou seront. Ils sortent.